Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous sommes le 18 septembre 1698, dans la 55e année, très exactement, du règne de Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle. Aux portes de Paris, une voiture tirée par des chevaux vient de passer inaperçue et à son bord, un personnage qui fera couler beaucoup d'encre et tourner une bonne vingtaine de manivelles de cinéastes. Et pourtant, cet homme est un inconnu puisque son visage est enfermé sous un masque de fer. L'homme est conduit à la Bastille où il vivra ses derniers jours et c'est précisément le lieutenant de Roy qui officie dans la célèbre prison qui le premier va évoquer cet inconnu dans un texte. Véritable mythe de notre histoire, l'homme au masque de fer n'en reste pas moins pour le plus grand nombre une énigme. À son sujet, plus d'une cinquantaine de thèses ou hypothèses ont été défendues, la plus saugrenue et la plus connue étant bien évidemment celle d'un roi, d'un soi-disant frère de Louis XIV. Alors, pour lever le voile sur ce personnage, ou plutôt lever l'écrou de ce masque et connaître le mystère, pour connaître ce visage au fond, je reçois Jean-Christian Petit-Fils. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes docteur d'État en sciences politiques, historien. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment une excellente biographie consacrée à Louis XIV, parue aux éditions Perrin. Et ce sont les mêmes éditions Perrin qui viennent de rééditer votre ouvrage « Le masque de fer, entre histoire et légende » dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Alors, Jean-Christian Petit-Fils, est-ce Louis XIV, justement, et l'étude de son règne qui vous a amené à explorer le mystère du masque de fer ?
Ah oui, certainement. Ce siècle a toujours été ma grande passion sur le plan historique. Et bien entendu, j'ai rencontré très rapidement cette énigme qui, donc, à la fois est une énigme historique et puis un formidable mythe. Et ça intéresse à double titre l'historien, à la fois donc comme une enquête policière que nous devons résoudre. Il y a un puzzle, il y a un certain nombre de pièces qu'il faut essayer de faire coïncider. Et puis le mythe en lui-même mérite aussi une étude, une analyse pour montrer ses racines profondes, pour montrer pourquoi il s'est développé au XVIIIe siècle, cette arme de combat contre l'absolutisme, contre les lettres de cachet. C'est quand même, il apparaît monstrueux d'enfermer un individu pour des raisons d'État.
Ordinaire, au mythe, à la légende, et pourtant, il n'en est rien. L'historien travaille sur les sources, les documents écrits, et vous ramenez d'emblée le lecteur à une réalité beaucoup plus prosaïque.
Oui, parce que cette histoire, elle a, malgré sa légende et malgré ses développements extraordinaires, on parle d'un prisonnier qui était servi avec des domestiques, qui mettait genoux à terre, on lui donnait la meilleure chair, la meilleure nourriture, on allait lui chercher des Madame Lebray, qui était la femme de l'intendant, commandait pour lui, dit-on, de magnifiques dentelles. Il y a toute une légende qui entoure ce prisonnier, et la question est de savoir si il y a un fond authentique. Et là, l'historien donc doit arriver avec un esprit critique et essayer de remonter le fil, d'examiner les documents. Alors, cette histoire donc a un fond authentique. C'est une gazette à la main de septembre 1687, donc 11 ans. Les sources, donc, outre cette gazette, il y a toute la correspondance de monsieur de Saint-Marc, qui n'a rien à voir avec le Saint-Marc, bien entendu, de la conspiration du temps de Richelieu et de Louis XIII. Monsieur de Saint-Marc est un ancien mousquetaire qui a été affecté à partir de 1665 à la garde de Nicolas Fouquet à Pignerol. Et puis qui a reçu un certain nombre d'autres prisonniers dans le donjon de Pignerol. Pignerol, c'est une petite place forte, française à cette époque-là, pas très loin de Turin, entre Turin et Briançon, si vous voulez. Donc nous avons toute la correspondance de M. de Saint-Marc et de ses ministres de tutelle, que sont Louvois, puis son fils Barbezieux, secrétaire d'État à la guerre, qui ont en charge les prisons d'État globalement, du royaume.
Mais alors, on ne cite jamais le prisonnier, on ne cite jamais son nom dans cette correspondance.
Alors, dans cette correspondance, on parle par périphrase, on parle du prisonnier que vous gardez depuis 20 ans, de l'homme de la tour, de ce qu'il a fait, de ce à quoi il a été employé. On craint toujours que la sacoche du courrier s'égare sur les routes et on fait donc attention aux multiples. En dehors de cette correspondance, nous avons aussi un certain nombre de comptes. Les comptes des prisons qu'on peut trouver aux archives nationales, aux archives des affaires étrangères, à la bibliothèque nationale, et puis au service historique de l'armée, là où se trouve l'essentiel de la correspondance de Monsieur de Saint-Marc. Une partie se trouvant aux archives nationales. Donc là, nous avons beaucoup de pièces, beaucoup de documents, quelques centaines, qui nous permettent de reconstituer toute l'histoire des prisonniers de Monsieur de Saint-Marc. Et c'est ça l'essentiel. Parce que beaucoup d'écrivains nous ont parlé, ont lancé à propos de ce personnage un certain nombre d'hypothèses qui n'ont aucun fondement. Certains ont dit que c'était le comte de Vermandois, fils naturel de Louis XIV et de Mademoiselle de la Vallière, le duc de Monmouth, le duc de Beaufort, qui n'aurait pas été tué à Candie, au siège de Candie en 1669, ou le surintendant Fouquet, qui ne serait pas mort à Pignerol en 1680, mais qui aurait poursuivi sa carrière, si je puis dire, de prisonnier sous Monsieur de Saint-Marc. On a parlé du chevalier de Rohan, etc. Et la grande erreur de tous ces écrivains et chercheurs, c'est de vouloir imposer un candidat et non pas de partir tout simplement des documents que nous avons et des prisonniers qui se sont trouvés là. On a des noms, on a des chiffres de pension. Nous connaissons à peu près le registre des coups de Monsieur de Saint-Marc. Monsieur de Saint-Marc a une carrière très longue en tant que geôlier. Il était donc d'abord gouverneur du donjon de Pignerol de 1665 à 1681. Ensuite, il est les arrivées des prisonniers, l'endroit où on les affecte, à quel endroit, parce que la Bastille a 8 tours, donc il y a des cachots, il donne donc à la première de la Liberté, la deuxième de la Bertaudière, etc. Ce sont des cachots, un cachot par étage, et le prisonnier a été mis au départ, notre prisonnier masqué d'un masque de velours noir, à la Bastille, à la troisième de la Bertaudière, et il a probablement changé à plusieurs reprises de prison. Ce monsieur Dujaca, dans son registre, premier registre, donc les entrées, le deuxième registre, c'est le registre des décès ou des libérations. Et le registre des décès, libérations, nous donne un acte de décès de l'homme au masque, donc en novembre 1703, Dujaca a écrit le 20 novembre pour relater le décès le 19 du prisonnier et indique qu'on l'appelait Monsieur de Marchiel en note. C'est donc un point très intéressant, mais surtout le premier document relatant l'arrivée du prisonnier masqué à la Bastille en 1698 nous dit ceci. C'était un ancien prisonnier que M. de Saint-Marc avait à Pignerol, lequel il fait tenir toujours masqué. Alors là, on a dit mais qu'en fait, ce n'était pas toujours, bien sûr, mais il ne le sait pas, Dujaca, dont le nom ne se dit pas. Et cette petite phrase est très importante parce qu'on n'a aucun élément qui nous permette de douter de la véracité des dires de Dujaca. Dujaca est un homme très, très scrupuleux, très honnête, et vraiment ce registre, c'est le document de base pour notre énigme. Il nous dit donc qu'il était à Pignerol. Or, nous savons que M. de Saint-Marc a quitté Pignerol en 1681. Toute la question, c'est de savoir, à partir des comptes des prisons, à partir de la correspondance, quels étaient les prisonniers qu'il avait en charge à ce moment.
Mort à la Bastille, qui s'appelle Marchiel ou Marchioli ou Marchioli. Et le but, comme vous le dites, c'est de revenir à l'origine et de revenir notamment aux comptes des prisons en 1681, l'année où Saint-Marc, qui est le geôlier de notre homme, du masque de fer, quitte Pignerol pour aller à exil. Alors, à Pignerolles, il a 6 prisonniers, 6 petits nègres, comme vous les qualifiez, puisque vous le disiez au début de cette émission, il s'agit d'une véritable enquête policière. Qui sont ces 6 petits nègres ?
Alors, M. de Samar a d'abord perdu ses 2 prisonniers de marque, le premier étant Nicolas Fouquet, qu'il a gardé depuis 1665 et qui est mort le 23 mars 1680, donc quelques mois avant. Et il a perdu un second prisonnier de marque, qui était le comte de Lauzun, gouverneur du Berry, lieutenant général des armées du roi, le courtisan bien connu, l'amoureux de la grande mademoiselle, qui a été, à la suite d'une altercation avec Madame de Montespan, enfermé à Pignerolles pendant 10 ans, donc de 1671 à 1681. Il est donc libéré en avril 1681. Donc ces deux personnages sortent de notre champ de réflexion. Nous n'avons aucun doute sur la mort de Fouquet. Il y a des historiens qui ont dit que l'homme au masque était peut-être Fouquet parce que c'était le seul prisonnier de marque important que M. de Samar avait avec Lauzun. Lauzun étant libéré, et puis Lauzun, on connaît parfaitement sa carrière ultérieure, donc il n'y a aucune possibilité pour lui de l'identifier à l'homme au masque. En revanche, Fouquet mourant en prison, on aurait pu se poser la question. Donc aucun doute là-dessus. Reste 6 prisonniers dont les archives nous révèlent les noms. Le premier, c'est un valet qui s'appelle Eustache d'Angers, qui a été un valet arrêté en 1669 et qui a été mis au service de Fouquet quelques années plus tard. Donc c'est un valet de Fouquet. Mais un valet un peu spécial, c'est un valet prisonnier. Le second est un ancien moine jacobin, dominicain, qui s'appelle Lapierre. C'est peut-être un surnom, c'est probablement parce qu'on l'accusait d'avoir cherché la pierre philosophale pour fabriquer de l'or. Le troisième est un espion qui s'appelle Dubreuil, le comte Dubreuil, qui se prétend comte Dubreuil, qui a été arrêté par des officiers de l'armée du roi parce qu'il renseignait l'ennemi et il a été donc enfermé à Pignerolles. Le quatrième est un agent double, le comte Mattioli, un Italien, arrêté en 1679 et qui se trouve toujours à Pignerolles en 1681. Le cinquième est un valet c'est le valet de Mattioli, qui s'appelle Rousseau, sur lequel on n'a pas beaucoup de renseignements. Et le sixième, c'est un autre valet de Fouquet, qui s'appelle Larivière, qui lui a commencé sa carrière comme simple valet, qui n'était pas un prisonnier, et puis qui va devenir prisonnier. On va voir pourquoi. Et nous avons donc 6 personnages. Et nécessairement, mathématiquement, l'homme au masque est l'un d'eux. Alors, on peut procéder par élimination, à partir, bien entendu, des éléments que nous fournit la correspondance. Dubreuil, le comte Dubreuil, est libéré en 1684. Il disparaît des comptes de la comptabilité de la prison. Larivière meurt à exil en 1686. Le moine jacobin meurt à Pignerolles. Lui, il reste à Pignerolles. Il faut dire qu'en 1681, M. de Samar va à exil avec 2 prisonniers et en laisse 4 autres à Pignerolles. Le valet, le moine jacobin meurt à Pignerolles en 1694. Nous avons, par déduction, pu identifier son décès, sa date de décès. Le valet de Mattioli, Rousseau, lui, reste à Pignerolles et rejoindra Monsieur de Samar à l'île Sainte-Marguerite où il mourra en 1699, donc après le départ de Monsieur de Samar. Par conséquent, tous ces personnages, Dubreuil, Larivière, le moine jacobin, le valet de Mattioli, tous ces personnages sont à éliminer puisque nous connaissons leur destin et ce destin n'a rien à voir avec celui du prisonnier mort en 1703 à la Bastille sous le masque de velours noir.
Alors reste Eustache d'Angers et Mathieu.
Deux candidats possibles.
Et alors tout à l'heure vous citiez le nom du personnage qui est mort à la Bastille, c'est Machiel ou Machioli.
Monsieur, alors voilà.
Alors et d'ailleurs l'historiographie s'est souvent employée à développer la thèse que le masque de fer est ce fameux Mattioli. Alors vous allez à l'encontre de cette thèse.
Voilà. Sur le registre de Dujinka, il est écrit « J'ai appris depuis qu'on l'avait enterré sous le nom de Monsieur de Marchiel ». Nous regardons le registre de Saint-Paul. Malheureusement, il a brûlé en 71 au moment des incendies de la Commune. Enfin, on a eu des photographies de cet acte de décès du prisonnier. Et le nom inscrit, c'est Marchioli. Pas de Marchiel, c'est Marchioli. Donc, il est évident que Marchioli, Mattioli, il y a plus qu'une similitude. C'est vraiment une identité de nom. D'autant d'ailleurs que dans la correspondance, on voit parfois écrit le nom de Mattioli, qui s'écrit habituellement avec deux T, écrit parfois Martioli. Donc, il ne fait aucun doute que ce nom de Mattioli, que le nom de Mattioli a été écrit, légèrement déformé, par le curé de Saint-Paul, puisque c'est lui qui a établi l'acte de décès, comme il établissait l'acte de décès de tous les prisonniers qui mouraient à la Bastille. C'est la paroisse Saint-Paul, dans le Marais, c'était la paroisse des prisonniers, paroisse de la Bastille. Est-ce pour autant l'homme au masque ? Alors, qui est ce Mattioli ? Ce Mattioli, c'est un juriste, un diplomate, mais aussi un aventurier qui a été secrétaire d'État de Charles III de Mantoue, qui a été, à la suite d'un changement de pouvoir et de l'avènement de son fils Charles IV, éliminé du pouvoir, qui a été renversé, et qui voudrait bien retrouver le pouvoir. Et qui, pour cela, va s'immiscer dans une négociation avec la bénédiction, plus ou moins, du jeune Charles IV de Mantoue, qui est un personnage joueur, débauché, aimant la vie vénitienne, qui ne s'intéresse pas du tout à la politique. Mattioli a l'idée de négocier avec le roi de France et son ministre des Affaires étrangères. On l'attire près de Pignerol et on l'enlève. Et l'instruction de M. de Pomponne est « Il faudra que personne ne sache ce que cet homme sera devenu ». Donc, c'est en effet un candidat tout à fait valable.
Et cette thèse vraiment a été...
Alors, elle a été soutenue par des grands historiens comme Fanny Brentano, Marius Topin, et puis aujourd'hui encore, on la voit dans la plupart des dictionnaires.
Vous ouvrez le dictionnaire Moore, le masque de fer, c'est Mattioli.
C'est Mattioli. L'ennui, c'est que ce Mattioli, il est resté à Pignerol en 1681, et que quand nous voyons arriver le mystérieux prisonnier de 1687 dans sa chaise à porteur avec son masque d'acier, nous le voyons arriver à l'île Sainte-Marguerite, nous savons pertinemment par la correspondance que Mattioli se trouve toujours à Pignerol. Et il ne rejoindra l'île Sainte-Marguerite qu'en 1694, quand les troupes du duc de Savoie commenceront à investir la place, bombardant d'ailleurs le donjon. On décide d'évacuer les derniers prisonniers et de les rapatrier sur l'île Sainte-Marguerite. De sorte qu'ils auront fait l'économie du séjour à exil, mais ils vont retrouver leur geôlier, notamment Mattioli et son valet. Et nous savons aussi, malheureusement pour cette thèse, que meurt un prisonnier d'État quelques jours après son transfert, en 1694. Le nom n'est pas donné, mais nous savons qu'il avait un valet. Et le seul prisonnier à avoir un valet, c'est Mattioli, puisque le valet était mêlé à la négociation de la cession de Casale et a été enfermé en même temps que le personnage principal, Mattioli.
Alors c'est un aspect intéressant d'ailleurs de votre livre, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'il n'y a pas des centaines de prisonniers dans les prisons de France à cette époque. La monarchie absolue n'est pas si absolutiste que ça.
Non, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns et on prend beaucoup de précautions pour M. de Saint-Marc et même de son successeur, M. de Bernaville, sont enterrés sous des faux noms. Et il est tout à fait logique, évidemment, que le prisonnier dont le nom ne se dit pas, comme disait Dujinka, ait été enterré sous un faux nom. Et ce faux nom, eh bien, c'est celui de Mattioli, Marchioli. Pourquoi ? Tout simplement parce que dès 1687, au moment où commence à circuler cette gazette, nous avons une lettre qui nous montre qu'on parle beaucoup de cette affaire, même à Paris. Et l'un des correspondants de voyageurs qui était passé en Provence à cette époque-là, donc en 1687, au printemps de 1687, indique, à propos de l'arrivée mystérieuse du prisonnier qui a frappé tous les esprits, à Grasse notamment, à l'étape de Grasse, puisque à chaque étape de son voyage, le prisonnier enfermé dans une chaise à porteurs, ce qui est tout de même quelque chose d'assez étonnant. C'est pas une chaise à porteurs, c'est réservé à des individus d'origine noble, à cette époque-là en tout cas. Nous voyons le prisonnier sortir parce que il étouffe. Il a un masque d'acier sur le visage et il étouffe dans sa chaise à porteur qui est en plus calfeutrée. Ce correspondant indique que je connais l'identité de ce personnage. C'est un personnage qui a voulu négocier avec le roi la cession de Casal. La cession de Casal, en fait, elle est intervenue un peu plus tard, après l'enlèvement de Mathioli, l'incarcération de Mathioli. Elle est arrivée en 1681, mais bien entendu, ce premier fiasco a été connu en France, et l'aventure de Mathioli a été plus ou moins éventé, et on savait dans certains milieux que Mathioli en fait était à Pignerol.
Donc on donnait, lors de la mise en bien, on donnait le nom d'un autre prisonnier.
On a donné le nom d'un autre prisonnier, c'est monsieur de Saint-Marc évidemment qui a donné ce nom de Fouquet ou de Lauzun, s'élève à 500 ou 600 livres par mois. Donc il y a une très grande différence de statut social, parce que le statut social au XVIIe siècle, c'est quelque chose de très important, et ça se retrouve même en prison, bien entendu. Un gentilhomme, quelqu'un de haute naissance, ou quelqu'un qui a été à la cour du roi, ne peut pas être traité comme un simple domestique et enfermé dans un cachot. Fouquet avait un appartement de 2 pièces, plus un petit débarras. Et Monsieur de Lauzun a également eu le même dispositif à l'étage du dessous. Donc c'était pas simplement un cachot. Alors que ce prisonnier, Eustache Gengé, est d'abord mis dans un cachot et dans une tour. Et c'est le prisonnier de la tour, ou de la tour d'en bas, comme on disait, puisque c'est la dénomination d'une des tours du donjon de Pignerol.
Alors, allons en avant du secret. Que cachait ce personnage ?
Alors, les historiens ont été très perplexes. On a essayé de trouver des explications. On l'a identifié à un certain Martin, qui était un valet d'un conspirateur, Roux de Marcilly, en 1669. Donc les choses semblent coïncider. Ce Roux de Marcilly voulait probablement organiser un soulèvement de protestants en France, peut-être même assassiner Louis XIV. Lui est enlevé, exécuté en juin 1669. Donc les dates coïncident. Et puis il y a un nommé Martin qui se trouve en Angleterre et qu'on envisage de faire venir. Malheureusement, on a découvert une pièce montrant qu'il était inscrit. Il n'est plus nécessaire de faire venir le nommé Martin, qui était le valet de Roux de Marcilly, à la suite de l'exécution de Roux. Donc, par conséquent, et on sait maintenant que Martin est resté en Angleterre. Donc, ça ne peut pas être le personnage arrêté à Calais quelques semaines plus tard.
Il y a également la thèse du bâtard de Charles II.
Alors, le bâtard de Charles II, ça, c'est une des thèses. Le bâtard de Charles II, ça ne correspond plus du point de vue chronologique, puisque il meurt en 1685 à la suite d'une révolte contre son oncle Jacques II. Et il est exécuté. Alors, bien sûr, il y a eu des légendes comme quoi il ne serait pas mort à ce moment-là et qu'on l'aurait substitué. Mais là, évidemment, les partisans de cette théorie ne parviennent pas à nous expliquer et à faire rentrer, en fait, leur candidat dans la prison, puisque nous avons cette prison, elle est déjà bien occupée par nos personnages.
Donc, alors, pourtant, le personnage de Charles II est une des clés de cette énigme.
Alors, c'est une hypothèse que j'ai émise qui concerne en fait Eustache d'Angers. L'homme a été arrêté à Calais donc en 1669, et à ce moment-là, dans les relations franco-anglaise, se déroulait une négociation très secrète entre d'un côté Charles II, qui voulait rétablir la religion catholique, se convertir au catholicisme et rétablir le catholicisme en Angleterre, et qui dit catholicisme dit aussi à cette époque-là l'absolutisme, donc sur le modèle de Charles Ier. Et il a besoin de l'appui de la France, et en échange de cet appui et de troupes qui seraient envoyées en Angleterre pour maintenir l'ordre en cas de révolution, il propose d'aider la France contre la Hollande, contre les Provinces-Unies. Et Louis XIV gardait une dent, si je puis dire, contre les Provinces-Unies, puisque la guerre de dévolution, quelques mois auparavant, avait été stoppée à la suite d'une initiative très brutale des Provinces-Unies et de la Suède pour empêcher la poursuite des conquêtes dans les provinces de Flandre. Donc, il y a là une négociation entre Charles II, roi d'Angleterre, et sa sœur, Henriette d'Angleterre, femme de monsieur, frère du roi, donc belle-sœur de Louis XIV. Et on parle dans cette correspondance, qui est une correspondance chiffrée, d'un grand secret. Et cette correspondance s'arrête, assez curieusement, en juillet 1669. Mais on sait qu'il y a un document qui résumait toute la négociation, un document en français, qui a été envoyé en Angleterre par un des négociateurs, un des coursiers qui portait les documents, ce document a été envoyé un mois environ avant la signature par Louis XIV de la lettre de cachet concernant Eustache d'Angers. Donc il y a une assez grande coïncidence pour considérer que ce prisonnier, nous n'en avons pas de certitude absolue, était mêlé à cette affaire de négociation.
On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois l'historien Jean-Christian Petit-Fils, auteur d'un livre sur Louis XIV, mais aussi d'un ouvrage réédité récemment dans la collection Timpousse des éditions Perrin, Le Masque de Fer. Alors, Jean-Christian Petit-Fils, nous savons qui est notre personnage, qui est ce masque de fer. Il s'agit d'un ancien valet qui aurait été au courant des négociations entre la France et l'Angleterre sur la conversion de l'Angleterre, la conversion de Charles II et donc la conversion de l'Angleterre. Pourquoi Louis XIV, au fond, n'a-t-il pas fait éliminer ce personnage ?
Alors, contrairement à ce qu'on pense habituellement, on n'éliminait pas les individus de cette façon-là. D'abord parce que c'est un royaume chrétien et que le roi ne considérait qu'il ne pouvait pas, en tant que roi, prononcer une sentence de mort. Vous savez, deux manières de rendre la justice sous l'Ancien Régime. Il y a ce qu'on appelle la justice déléguée, qui se fait avec les conseillers au Parlement, notamment. Bien sûr, il y a une procédure qui nous paraît évidemment aujourd'hui assez arbitraire, mais il y a une procédure criminel qui permet au conseiller du roi de prononcer une sentence de mort. En revanche, l'autre mode d'exercice de la justice, c'est ce qu'on appelle la justice retenue. C'est celle qui est retenue, conservée dans les mains du roi. Le roi est un maître de toute justice. C'est même la fonction principale au départ de la monarchie. Vous voyez l'image de Saint-Louis rendant à ses affaires d'avoir été mêlé à des affaires de messe noire.
Mais alors, Jean-Christian, je vous en prie.
Et simplement, il a été décidé d'arrêter la procédure de la justice déléguée, puisqu'il y avait une chambre ardente qui était chargée de juger ces individus et qui aurait pu les condamner à mort et qui avait déjà commencé à condamner à mort un certain nombre d'individus, comme la voisin notamment. on a arrêté, et en vertu de la justice retenue, on a envoyé ceux qui avaient accusé Madame de Montespan, on les a envoyés dans des citadelles de province, avec des instructions extrêmement précises en disant « Vous ne devez surtout pas écouter ce que vont dire ces gens ». Donc nous nous trouvons en face d'un phénomène assez voisin.
Mmh. Mais alors pourquoi, Jean-Christian Petit-Fils, pourquoi un masque de fer ? Puisque cet homme, au fond, il n'avait pas le droit de parler, il n'avait pas le droit de crier son nom. Alors pourquoi lui mettait-on aussi un masque de fer ? Car au fond, son visage n'était pas connu.
Alors, pourquoi ? Il faut remonter à 1680, au moment de la mort de Fouquet. Quelques jours avant la mort de Nicolas Fouquet, une lettre d'instruction, une lettre de Louvois donne instruction à M. de Saint-Mars, l'ordre de visiter les conduits de cheminée, les cheminées du donjon de Pignerolles, parce qu'il a obtenu, Louvois, des informations particulières, comme quoi les prisonniers, d'un étage à l'autre, discuteraient. Or, des instructions extrêmement précises avaient été données pour qu'on ne puisse pas mettre en communication Lauzun, d'une part, et Eustache d'Angers, valet de Fouquet, de l'autre. On avait adouci le régime carcéral de Fouquet et de Lauzun, mais pour Eustache d'Angers, il y avait un régime un peu particulier, ce qui se comprend, bien entendu, puisque on faisait confiance à Fouquet pour garder le secret, parce que, évidemment, Eustache d'Angers l'avait donné, il l'avait dit à Fouquet, mais on ne voulait pas que d'Angers puisse parler avec Lauzun. Or, à la suite de cette fouille, Saint-Mars s'aperçoit qu'il y a des communications constantes et que même Lauzun montait à l'étage supérieur, s'installait dans le lit de Fouquet, et que c'est une manière de démonétiser, en quelque sorte, les éventuels bavardages de Eustache d'Angers. Voilà les instructions. Il n'y a à aucun moment une instruction n'a été donnée de cacher le visage du prisonnier. Mais évidemment, il fallait le cacher, ce visage, ne serait-ce qu'aux soldats de la compagnie franche de M. de Saint-Mars. Donc déjà, probablement, pendant le transfert de Pignerolles à Exil, on a dû mettre un sac voire un masque sur le visage du prisonnier. Et évidemment, pour le nouveau voyage qui va d'Exil à Sainte-Marguerite, là, c'est un voyage qui va durer plusieurs jours. Eh bien, il va falloir une douzaine de jours. Il va falloir masquer le visage du prisonnier et l'enfermer dans cette fameuse chaise à porteurs couverte de toile cirée. Et Saint-Mars s'est vite aperçu qu'en faisant croire qu'il gardait un personnage de la plus haute importance, eh bien, il se valorisait lui-même. Saint-Mars a connu une frustration de carrière. C'est justement une mise en scène pour frapper les imaginations et une supercherie.
Alors évidemment, la Révolution française va en faire ses choux gras. Quelques mots, simplement, Jean-Christian Petit-Fils, sur le mythe. Pensez-vous qu'il a encore un bel avenir, ce mythe ?
Ah ben, on le voit au cinéma. On a déjà 22 films sur le masque de fer, des romans, 25 romans, des pièces de théâtre. Le romantisme s'est emparé de l'affaire. Vigny a écrit un poème. Hugo aussi. Je ne parle pas d'Alexandre Dumas. Pagnol s'est emparé de l'affaire également.
Pagnol est très dur. Vous le citez à nombreuses reprises. Il est très dur avec le régime.
Oui, oui, oui. Alors, évidemment, il accuse Louis XIV d'avoir fait empoisonner tout le monde, Fouquet. Tout cela pour prouver que Eustache d'Auger, comme il l'appelle, puisque, en fait, c'est pas d'Auger, mais il a cru lire d'Auger comme ses prédécesseurs, était le frère jumeau de Louis XIV. Alors, c'est difficile, évidemment, à prouver, parce que si on le met au service de Fouquet, on n'imagine pas Louis XIV acceptant de mettre son jumeau au service de l'ennemi de l'État qui était l'ancien surintendant des finances. Alors Pagnon lui dit bon, c'était un secrétaire, il servait mais c'était pas lui qui graissait les bottes de Monsieur Fouquet.
Certains vont même jusqu'à dire que il s'agissait d'un ancêtre de Bonaparte.
Alors oui, il y a eu cette fameuse histoire où on le voit dans le mémorial fluviale de Sainte-Hélène, il est question d'un gouverneur qui s'appellerait Bompard et dont qui aurait eu une fille et la fille bien sûr serait tombée amoureuse du prisonnier. Ils auraient, si je puis dire, fait un enfant à travers les barreaux et cet enfant aurait été discrètement acheminé en Corse, d'où évidemment la différence de langage jouant, on l'aurait appelé Buonaparte au lieu de Bompard. Le seul point historique, c'est qu'en effet, au XVIIIe siècle, il y a eu un commandant qui s'appelait Bompard à l'île Sainte-Marguerite, mais c'était beaucoup plus tard. Et Napoléon a été au courant de cette histoire et il a dit bien finalement ça aurait pas été très 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 difficile étant donné la crédulité des gens de faire croire cette idée si j'avais voulu, dira-t-il, si j'avais voulu dans le mémorial de Sainte-Hélène, j'aurais trouvé certainement une centaine de personnes dans le Sénat pour sanctionner cette décision, probablement, dit-il, ceux-là même qui plus tard se sont empressés de me dégrader. Et sitôt l'adversité venue.
Eh bien, nous allons nous quitter, Jean-Christian Petit-Fils, sur ce mythe. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Le Masque de Fer, réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Je dis également à nos auditeurs que vous êtes intervenu à l'Académie des sciences morales et politiques sur Louis XIV, une communication qui est disponible sur le site asmp.fr. Je vous remercie, Jean-Christian Petit-Fils, et à bientôt.